Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. C'est la 11e émission de cette année 2025, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. On peut nous suivre sur le blog en allant sur émission-femmeslibres.blogspot.com. Et on peut donc ainsi réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud grâce à Sylvie. Le programme de ce soir, Féminicide par compagnon ou ex, un opus poétique, Nos deuils attentifs de Laurence Nobecourt, édition La Rumeur Libre. Bonsoir. Et avec. Bah oui, mais tu n'étais pas encore assise, chère amie. Avec Sandrine Malika, voilà. Et puis après, nous avons pour invité Hélène Merlin. Pour son film Cassandre, un très très beau film, mais on aura l'occasion de découvrir ce film tout à l'heure. Et on terminera par des informations, des communiqués, des rendez-vous. On démarre avec le premier temps, Féminicide par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France pour l'année 2025 conduisent au chiffre 20. C'est un chiffre recensé. Plutôt à minima. Et ça ne concerne que des féminicides par compagnon ou ex-compagnon. Mais aussi, on a de nombreuses affaires qui sont non comptabilisées, qui sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Le 18e féminicide, c'était le jeudi 13 mars à Aizenay, en Vendée. Christelle François, 54 ans, a été battue à mort par son ex-compagnon Éric Poirier, 52 ans, à son domicile. L'homme a ensuite mis feu au corps de Christelle avant de prendre la fuite. Ce sont des collègues de celle-ci, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, qui ont prévenu les secours. L'enquête s'est rapidement orientée vers un assassinat avec l'interpellation de l'ex-conjoint. Ce dernier vient de reconnaître les faits lors de sa mise en examen devant un juge d'instruction. C'est bien un féminicide. Le 19e féminicide. Vendredi 21 mars à Bruay-sur-l'Escaut, dans le Nord, Manon, 29 ans, aurait été poignardée à mort par son compagnon en présence de ses deux enfants âgés de 19 mois et de 4 mois. Il a été interpellé et placé en garde à vue avant d'être finalement admis en service psychiatrique. Le 20e féminicide et qui s'accompagne d'une tierce personne. Dans la nuit de dimanche à lundi 24 mars à Limeira en Dordogne, Amandine, 38 ans, a été poignardée à mort par son compagnon, 41 ans, à son domicile. L'homme a également tué la fille de la victime, Nina, 13 ans. Selon une source proche de l'enquête, il aurait lui-même prévenu la gendarmerie avant d'être interpellé. Nous les citons et nous ne les oublierons pas. On peut retrouver ce que je viens de vous dire sur le site www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Bonsoir. Alors avant de commencer à lire quelques extraits de nos deuils attentifs de Laurence Nobécourt, publié à La Rumeur Libre, j'étais en train de me dire, comme ça, là, en arrivant, que si on regardait le monde avec davantage de poésie, peut-être serions-nous moins enclins à systématiquement le détruire. Bon, c'est sans doute très utopique. Alors, pour présenter Laurence Nobécourt, ce que je vais lire, c'est un extrait d'un entretien qui figure dans ce recueil où on lui pose notamment cette question. Ceux d'aujourd'hui te considères-tu comme une poète ou d'abord comme une romancière qui écrit aussi de la poésie? Alors elle répond « Pourquoi tant de préoccupations humaines me semblent-elles aussi vaines et depuis si longtemps? Pourquoi suis-je soucieuse de prendre soin de la vie, de ce qui touche l'autre, le blesse, de la beauté, de la conscience? On ne sait pas. On sait si peu de choses. Et on ne choisit presque rien. Pourtant, n'est-ce pas être poète que cela? Même si la poésie est un genre, elle est avant tout un certain rapport au monde, une façon de s'autoriser un lien symbolique et sensible à celui-ci. En ce sens, je me sens poète avant tout. Peut-être est-elle la seule part réellement humaine de l'homme. En tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvée de supporter les abysses de sa condition. Pour moi, la poésie est liée à la vérité et à l'intensité. Elle entérine le caractère tragique de la vie. On fait quelque chose là où nous ne pouvons rien. En témoignant de l'impossibilité de saisir le réel par le langage, en témoignant de sa propre impuissance, paradoxalement, la poésie propose quand même un « agir ». Car elle est reliée à tout ce qui est insaisissable par essence, tout ce qui ne peut se dire ni se taire. La poésie est comme ces animaux sauvages que l'on guette lorsqu'ils vont boire à la nuit. On ne peut pas les posséder ni les maîtriser. C'est un rapport avec l'insaisissable du réel que la poésie approche à pas de félin. Que je me sente mélancolique ou dans la joie, la poésie m'est un véritable soutien. Elle ne donne aucune réponse, mais c'est une présence, comme la qualifie Roberto Huarros, poète que j'aime énormément. Je suis d'accord. Donc voilà un peu comment elle se définit. Elle est également romancière, hein, Laurence Nobécourt. Et actuellement, elle vit dans un petit village de 3500 habitants. Je ne sais pas où ont été écrits ces textes. Certains, il me semble, sans doute près de la nature, peut-être là où elle demeure. Alors, je vais commencer par lire cet extrait. Les poèmes sont sans titre. Qui s'est tenu sur le haut du mur du silence, cerné de pierre à l'heure nue? Était-ce moi, toi qui marchais dans les matins immobiles, et ta demeure sèche, découpé au ciseau par la question du sens. Dans les mots, sans la parole, sans plus pouvoir nommer notre soif, nous étions là, caressés par la main inquiétante d'un silence noir, réduit à nous-mêmes, cet éclat de chair, ivre d'esprit. Est-ce vous qui avez patienté jusqu'au dernier jour pour que l'homme soit davantage qu'une possibilité? Ils vont et viennent, dans le fracas du monde. Nous demeurons élaborés de lumière, pleins d'absolu et de misère. La peine étire nos cartilages muets. Un suivant. Farouchement, il n'y aurait rien d'autre à faire que cela, te rendre ce que tu me donnas. Temps ancien, de bleu cobalt, un bandeau noir dans les cheveux. Elle est tombée, la folle folie, déguisée, sans plus d'atours. Je la revois, l'échappée belle derrière la lourde porte. Les mots de leurs mains ont mugi, sous leur robe, la pâle détresse d'un repentir pauvre. Oh, les fous aux cheveux gras, les grilles de leurs yeux grincent quand leurs paupières se ferment et cette moue à leurs lèvres. Ces frères que je n'ai pas eus et qui auraient soutenu mes pas face aux charrues empoisonnées des convenances délétères, versant sur nos têtes nouées le sommeil crevé, leurs visages des parchemins pendus de solitude grise. Qui seras-tu dans la cohorte sur les routes mal apprises. Un autre. Il a commencé le grand chemin. S'est levé le vaste lent, balayant ce en quoi nous avions pleinement cru. Les hautes pluies de l'âge ont effacé les traces que nous avions gravées. Sable, sable, tout est sable, en ce temps du dedans qui sonne, pour nous, les premiers au revoir. L'œil ouvert, écarquillé de force, pleure une joie cousue d'irréparable. Terres inconnues de l'intérieur, nid de désillusion où poussent toutes les fleurs. Je vous bénis, qui êtes désormais ma patrie et ma force. Où chercherons-nous ton nom, à toi qui es passé sans hâte entre les fils du temps? Ceux qui ne se nomment ni se donnent, lumière conquise à force de perte. Oh, j'ai vu ton visage, ou bien n'était-ce encore qu'un simple reflet de l'ombre en moi? Je poursuis avec un suivant, toujours sans titre. Donc je rappelle le titre, Nos deuils attentifs, de Laurence Nobécourt. À qui viendra glisser ses pieds de plume dans la trace de mes pas tremblants, l'un après l'autre, humains, nos pauvres vies pour enclume, à forger la promesse de cire qui fond entre nos doigts brûlants, ni ferveur, ni amertume pour fendre la rosée du temps. Aux alvéoles du vivant, dans l'essaim de mon altitude, ce rêve de miel que j'ai payé comptant. Je n'ai rien oublié, ni ma figure par les années vaincue, ni sa solitude de bleu, mes cheveux d'algues aux heures d'infortune, la mer emmêlée au cristal, la patrie d'enfance perdue, les routes obliques, la foi ramassée à main nue, l'espérance atlantique, tout se tait, affligé. Mais le ciel parle, et je suis là, parmi les chênes, au milieu des abeilles, seule, éblouie, du verbe paysanne. Un suivant. Sa bouche, occulte, enténébrée, a engendré la langue ennemie. La brune fusion de son œil froid, prodigue des duplicités assassines. Ni la pitié, ni le mépris n'auraient suffi à déserter son velours d'ombre, nacré dans l'air de ses doigts. La candeur tremble, son oraison bénigne, mais la lumière aura brûlé ses pâles accès, et je chemine. Les poissons volent dans mon jardin, et Dieu me porte sur ses épaules. Tournoie, tournoie, les pauvres spectres vaincus d'audace. J'ai bon esprit, et ils s'éloignent quand je les frôle, avec mon âme sur le muret, dans la couture de mes os, sous les lampions d'un vrai juillet, nous festoyons. Suivant, Dorée de Lys. Ces souvenirs de bois sec qui brûlent d'un seul feu au grand élan de la jeunesse. Tu as recousu le ventre des lions, leur crinière de lumière sont tes cheveux de verre, le témoin du monde. Une démangeaison de soufre tapis dans l'angle mort de ta vérité juive, ô mémoire hébraïque, nous ne sommes plus d'aucune réponse vêtue. Un original de tristesse arpente mes forêts intérieures, et les orties de déraison s'agrippent aux jambes fauves. Où est ma joie passée? Des mouches dans les yeux, ses ailes blessées, la liberté saigne dans un fracas de plumes, une mémoire aux dents d'argile. Qui se souvient des étoiles battant sur le cœur jaune des hommes? Je chasse l'espérance à main nue dans cette France cardinale où la robe des institutions est en exil, son hermine déchue. Notre inquiétude en rang serré est une armée de tendresse anéantie, dans la parole d'algues, des sexes, meurent par milliers au littoral. Et un dernier pour la route. Je bricole une probité à la courte échelle, sur les épaules du langage, pour supporter l'irréparable, ni résurrection, mes peines éperdues dans mes mains, comme le fruit sauvage de l'arbre de mémoire. Je t'écoute, Shemma. Toi, l'autre, qui es-tu? Ta parole serait-elle une glycine orange qui grimpe sur la tonnelle de l'espérance? C'était Nos deuils attentifs de Laurence Nobécourt, publié à La Rumeur Libre édition. Bonsoir.
Voilà, on arrive au troisième temps de cette émission, après les féminicides par compagnon ou ex, après Opus poétique, Nos deuils attentifs de Laurence Nobécourt, édition La Rumeur Libre, dit, scandé par Sandrine Malika. Nous arrivons à une autre forme de création avec Hélène Merlin, pour son film Cassandre, qui sera sur les écrans le 2 avril, donc dans quelques jours.
Bonsoir Hélène Merlin, je suis ravie de vous accueillir dans l'émission Femmes Libres. Et j'ai vu votre film Cassandre, que je trouve que c'est un très beau film, très émouvant, qui est féministe, qui démontre aussi ce que le patriarcat façonne les individus, hein, que ce soit d'ailleurs les hommes et les femmes, c'est pas simplement que les hommes. On voit bien les réactions dans votre film avec vos personnages. Et voilà, j'ai trouvé que on est pris dans les jeux malsains. Malgré nous, on est pris dedans d'un côté, et puis de l'autre côté, on est pris aussi par la liberté de Cassandre, hein, et l'espace de liberté qu'elle peut rencontrer. Et donc tout ça, ça fait quelque chose qui s'entrechoque, et c'est pour ça que c'est aussi un film qui est fort, il me semble. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez fait avant de faire ce film Cassandre?
Alors, j'ai été comédienne pendant une dizaine d'années et après, j'ai bifurqué plutôt du côté de la poésie et puis après, du côté du film institutionnel, et j'ai fait des formations en journalisme, reporter d'image, et puis j'ai repris des études de licence de lettres et de médiation culturelle. J'ai travaillé comme médiatrice culturelle, à animer beaucoup d'ateliers pédagogiques, radio, vidéo, théâtre, écriture. Et puis j'ai bossé en radio aussi, à Radio France, à France Musique et à Move, où j'étais chroniqueuse culture et reporter. Et puis cette histoire s'est imposée à moi, où j'ai été confrontée dans ma vie à plusieurs types de violences d'ordre sexiste et sexuel. Et je me suis dit qu'à un moment, je devais comprendre ce que je portais en moi qui pouvait me rendre comme une proie facile, et qu'est-ce qui, dans la société, faisait que les répétitions étaient à l'œuvre en permanence. Et donc j'ai commencé à écrire le scénario de ce film en 2016 pour comprendre ce qui se jouait en fait, et autopsier l'histoire de ma propre famille pour comprendre un peu tous les rouages, et du coup 10 ans plus tard le film sort.
Ouais, c'est donc une longue maturation.
Tout à fait.
Une longue maturation, et du coup c'était un peu la question que j'avais après. C'est votre vous avez essayé de chercher dans votre biographie, hein, ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qui avait fait que vous aviez été une proie. Donc c'est autobiographique.
Alors c'est une partie, c'est d'inspiration autobiographique, oui. Puisque vraiment j'ai revisité toute mon adolescence et l'histoire de ma famille sur plusieurs générations. Après le temps cinématographique oblige à une concision, puisqu'on a une heure et demie, en gros, 1h45 pour faire un film. Et donc, on est obligé d'aller chercher le sens profond de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on veut mettre en image. Et donc, forcément, ça oblige à être concis et concentré pour faire émerger ce qu'on veut dire. Donc, forcément, j'ai édulcoré certaines choses, j'ai complètement occulté certains aspects de ma vie parce qu'ils ne servaient pas à la dramaturgie. J'ai, utilisé ou transformé mes souvenirs pour les mettre au service d'une dramaturgie. Je me suis évidemment inspirée de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai entendu, de toutes les situations auxquelles j'ai été confrontée. Mais j'ai créé une trame d'un film qui tient en 1h30 de temps et puis surtout qui raconte l'histoire d'une adolescente en été, et précisément l'été 98. Et la fin n'est pas, moi, celle que j'ai vécue. Moi, je suis restée chez mes parents jusqu'à 18 ans. Enfin, donc voilà, il y a plein de choses qui... Tout est inspiré de ma vie.
Et 98, c'est une date pour vous aussi ?
Absolument, parce que moi j'ai été adolescente dans les années 90, donc je suis née en 82, donc j'étais adolescente à cette époque-là, que j'ai effectivement, comme dans le film, vécu la Coupe du Monde 98 au centre équestre, donc après voilà, c'est intégré dans la dramaturgie, mais je trouve que c'est important d'inscrire cette histoire dans son époque. Parce que moi, j'appartiens à une époque, une génération où la parole se libère, où c'est plus facile d'aller voir un psy, de se questionner sur les problèmes de société, et avec tout un élan, une prise de conscience qui est globale. Il y a eu MeToo, il y a eu MeToo Inceste, il y a eu toutes ces prises de parole, toutes les œuvres qui sont sorties récemment, comme La Familia Grande, Triste Tigre de Neschino, où il y a eu Les Chatouilles précédemment sur la pédocriminalité d'Andréa Bescon. Donc, tous ces films-là amènent à une sorte de maturité, de maturation de la société et des êtres que nous sommes aujourd'hui. Tout comme mes parents ont appartenu à une époque et ont été confrontés à des phénomènes de société comme mai 68, mais aussi tout le courant de la publicité, on va dire, de porno chic des années 90. C'est l'époque où Mads Neff allait à la télé raconter ses frasques pédocriminelles à Bernard Pivot. C'est cette époque-là où Depardieu, PPDA régnait sur les plateaux de télé et de cinéma. Donc, c'est toute une époque qui a amené, provoquer en fait des abus, des dérives, et en fait notre génération aujourd'hui commence à les dénoncer, et elle a hérité en fait, on va dire, des dérèglements de la génération précédente, qui, cette génération de mes parents, ont hérité aussi de dérèglements de la Seconde Guerre mondiale, de la pauvreté, de la difficulté aussi d'être au monde, et que en fait la violence que mes parents ont pu vivre, elle déferle en fait, et on la ressent des années plus tard, et elle se transforme, il y a quelque chose qui ruisselle. Et voilà. Donc c'était important.
Mais il n'y a pas que la violence après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la violence, elle a toujours existé. Hein. Si on lit le bouquin qu'a coordonné Christelle Tarot sur le continuum dans l'histoire des féminicides, hein, donc de toutes les violences, ça a toujours existé. Alors peut-être que la période post-guerre est plus dur à vivre, hein, puisqu'il y avait le rationnement, puisqu'il fallait reconstruire la France, voilà. Mais c'est aussi une période où le patriarcat était très bien installé. Hein. Le général de Gaulle, c'est un militaire. Donc derrière le militaire, puisque vous utilisez aussi un militaire, hein, dans votre film, derrière le militaire, on a la virilité, on a l'ordre, la discipline, enfin voilà. Et donc la société, si ça a explosé en 68, c'est aussi parce que tous les jeunes étudiants en 68 avaient... une cravate, hein. Les garçons avaient une cravate et les filles pas le droit de mettre le pantalon. Donc voilà, il fallait que ça explose.
Absolument, hein. Il fallait que ça explose et souvent, quand une génération aussi renouvelle ou en tout cas bouscule les mœurs, ça peut aller dans un extrême et puis après faut réajuster dans un autre sens. Mais évidemment, le père militaire dans le film incarne ça, toutes les injonctions virilistes, toute la violence patriarcale et le décor du manoir dans lequel vit cette famille-là. Pour moi, j'ai pas grandi dans un manoir, mais j'ai choisi ce décor-là parce qu'il incarnait pour moi le poids d'un héritage lourd à porter, d'un cadre vieillissant et décadent, absolument. Ouais. Et donc, c'était vraiment d'installer ces figures du patriarcat qui nous oppressent et qui sont pesantes et qui, comme vous le dites très bien, imposent. Il y a des injonctions à la fois pour les hommes. De virilisme, à la fois pour les femmes de comme la mère qui est au foyer, qui ne travaille pas, qui est dépendante de son mari,
soumise,
qui est totalement soumise au patriarcat, qui a complètement intégré les codes du patriarcat, même si elle se dit féministe et qu'elle a quand même révolutionné des choses, je pense, dans sa vie ou par rapport à ce qu'avaient pu vivre ses parents. Mais il y a quelque chose qui nous imprègne depuis des siècles, en fait. Donc, c'est ce poids-là que je voulais raconter aussi.
Donc, on a... et c'était la question qui venait après. Hein, on a, dans cette famille qui dysfonctionne, on a un père rigide, militaire. On a une mère... post 68 tarde qui va se baigner toute nue, qui se balade toute nue, on peut rentrer dans les chiottes et puis elle est en train de faire ses besoins sans que la porte soit fermée, enfin avec des ados, ça me semble quand même très bizarre. On a donc deux figures paternelles et maternelles qui ne devraient pas exister ensemble. Et en même temps, quand on est autoritaire, viriliste et tout ça, on va choisir forcément une femme qui va être soumise. Mais comment cette femme post-68 tarde, qui est maintenant soumise, comment elle a pu se soumettre? Voilà, il y a aussi ces questions-là qui sont posées.
Les personnages des parents, effectivement, sont porteurs de paradoxes, de contradictions, et ils sont ambivalents. Et c'est ce que je trouve intéressant, parce que je trouve qu'on a tous une part de paradoxe en nous et on est tous ambivalents à certains moments selon les gens qu'on voit, selon les écosystèmes dans lesquels on est. Précisément, pour ces personnages-là, je trouve ça intéressant aussi comment ils s'arrangent aussi avec leur conscience ou avec les événements qu'ils ont pu traverser. Et je pense précisément pour le rôle de la mère, qui était antimilitariste, qui était féministe, qui travaillait pour Charlie Hebdo à Rakhiri à l'époque, comment elle a pu tomber amoureuse d'un militaire. Et en fait, je pense que dans cette histoire, dans le personnage, on découvre que la mère s'est fait violer avant de rencontrer cet homme-là, et qu'en réalité, je pense que de rencontrer quelqu'un qui va incarner l'autorité, la sécurité, le cadre, à un endroit rassure. Et quand on a été victime de violence, en fait, on peut avoir des réactions un peu de survie ou de se dire qui va pouvoir me protéger, qui va pouvoir prendre soin de moi, qui va pouvoir m'assurer une sécurité, on va dire financière, matérielle, affective. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là d'un point de vue psychologique pour le personnage de la mère qui inconsciemment, malgré ses valeurs féministes et anticapitalistes, antipatriarcales, antimilitaristes, de dire je vais chercher à un endroit, un homme qui va pouvoir me protéger. Je pense que c'est ce qui se joue chez ce personnage-là. Et après, pour le personnage du père, l'idée de rencontrer aussi une femme... je pense que c'est quelqu'un
qui a besoin de protection.
Puis aussi, on le dit très rapidement au début du film, mais en vrai, le père, on dit au début du film, il rêvait d'être dessinateur ou cavalier, donc c'était quelqu'un qui avait des aspirations de l'ordre plus sensible, en fait, d'une sensibilité qu'il n'a pas pu exprimer et qu'on a complètement brisé. Il est entré à l'armée, le texte le dit comme ça, il est entré à l'armée, et puis ça a fracassé un homme, en fait. Donc, comment l'armée, comment ça a transformé cet homme-là aussi, mais qu'à l'intérieur, je pense qu'il y avait des aspirations d'ordre, voilà, plus d'une liberté, d'une sensibilité, d'une poésie qui ont été brimées en fait. Et d'ailleurs, la violence que le père va infliger au fils, c'est comme une sorte aussi de manière de l'endurcir, de se dire en fait mon fils il est sensible comme je l'étais et il faut qu'il apprenne la vie, il faut qu'il apprenne la dureté, il faut que je l'endurcisse. Donc en fait, paradoxalement, je pense que tout ce que peuvent transmettre les parents parte d'une bonne intention, même si à un moment le climat familial est toxique et qu'il y a des dérives éducatives et une violence éducative, à un endroit, ça part d'une humanité et des peurs que chaque personnage porte et comment ça va modifier le rapport à l'autre.
Et ça s'exprime d'une façon complètement paradoxale, parce que ce fils qui a eu du mal à démarrer dans la vie, qui est plutôt maladif, alors lui, franchement, vous l'avez choisi, qui est pas sûr de lui, et qui en même temps raconte des histoires, enfin, et qui est pas viril, bien sûr, au contraire de son père. Il est aimé par sa sœur. C'est comme un amour fusionnel entre ces deux ados, finalement. D'une façon platonique, pour démarrer. Hein. Et puis après, y a l'inceste pour prouver à sa sœur qu'il est viril.
Tout à fait. C'est... Je pense que le frère et la sœur, il y a une complicité comme dans beaucoup de fratries, en fait, une complicité entre frères et sœurs qui est totalement normale entre enfants. Après, effectivement, c'est un garçon qui se fait vraiment écraser par le père, qui est sensible, qui a une fragilité et qu'on enferme en fait dans cette posture un peu de fragile. Et la seule manière, et sa première alliée, c'est sa sœur en fait. C'est sa première alliée aussi face à une autorité parentale. On va dire abusif par plein d'endroits, et de la même manière que la mère va compenser la violence éducative du père en le surprotégeant et en étant vraiment de limite incestuelle, donc elle a un rapport assez fusionnel à son fils. Donc il est piégé, le personnage du frère, il est piégé entre la violence éducative du père et la surprotection de la mère, et sa meilleure alliée qui est sa petite sœur, évidemment il veut essayer de lui prouver qu'il peut devenir quelqu'un. Et comme elle est meilleure à l'école, meilleure en compétition équestre, meilleure en sport, meilleure, plus intelligente, plus vive, plus tout, et qu'elle est la préférée du père, il y a un endroit où lui, il n'a aucun espace pour exister. Et sa seule manière, je vais dire, effectivement, de devenir un homme, de devenir viril, c'est d'expérimenter avec sa sœur, ou de raconter un peu des bobards de tout ce qu'il sait faire. Donc c'est aussi de voir ce personnage-là qui est aussi complètement brimé, et comment, à sa manière, il va essayer d'exister, quoi, dans ce climat, dans cet écosystème toxique.
Thank you.
Et puis Cassandre, elle, elle absorbe tout ça, que ce soit le père, la mère, le frère, elle absorbe ça dans son monde à elle, dans son monde à elle. Et on ne sait pas trop ce qu'elle pense, hein. Même quand elle va au centre équestre, qu'une jeune fille va vers elle et va devenir son amie, au bout du compte, on ne sait toujours pas ce qu'elle pense. On sait ce qu'elle refuse des fois, mais on ne sait pas ce qu'elle a réellement envie. Hein.
Je crois que c'est très complexe. Effectivement, c'est un personnage qui est un peu piégé et qui a connu une normalité dans cette famille, qu'elle croyait être, en tout cas, qu'est-ce sa normalité, et puis qu'elle découvre un autre univers qui est très différent de ce qu'elle a pu vivre, puisqu'elle était au pensionnat militaire, elle montait à la caserne militaire, et là, elle découvre un centre équestre avec d'autres manières de fonctionner, de cohabiter, de communiquer, et donc, elle se sent aussi comme une étrangère. Donc, il y a quelque chose où c'est comme si elle avait un peu de visage et que de facettes d'elle-même et qu'elle ne peut pas être elle-même nulle part en fait. Et donc il y a une difficulté d'être en rapport aux autres aussi. Et c'est vrai que c'est un personnage mythique qui observe, qui analyse comme moi j'ai pu l'être et qui préserve en fait aussi son jardin secret, son intimité, parce qu'il y a quelque chose où elle se sent en danger un peu partout, même dans le centre équestre, parce que c'est des codes qu'elle ne connaît pas, c'est des gens qu'elle ne connaît pas, c'est des habitudes qu'elle n'a pas, et on le voit dans la scène de la Coupe du Monde de foot en fait, où elle n'arrive pas à s'intégrer au groupe, où elle se sent très à la marge en fait, et c'est là où elle va trouver refuge auprès des animaux, parce que ils sont pas dans un rapport verbal, il n'y a pas obligé de formuler des choses, il y a juste l'idée d'être en lien,
et puis de ressentir
d'être dans son corps, d'être dans une émotion au contact d'un animal qui ne nous veut pas de mal. Et donc c'est aussi grâce aux chevaux qu'elle va en tout cas réussir à être en lien avec ses émotions, avec son corps.
Et puis qu'elle va grandir et qu'elle va pouvoir exprimer quelque chose aussi. Et qu'elle va pouvoir exprimer sa liberté de fait.
Oui.
Hein? Alors, entre certaines scènes, on a une marionnette qui arrive. Et qui fait du lien et qui permet de comprendre des moments difficiles, hein, et du coup quand on peut pas dire, on peut montrer une marionnette, on peut pas dire parce qu'on est sidéré, on peut pas dire parce qu'on est dissocié, voilà. Donc on a cette marionnette qui va nous suivre pendant tout le film. Comment vous avez eu idée de cette marionnette?
Il y a plein de choses qui m'ont inspiré ces marionnettes. J'ai été fascinée par le travail de Hans Bellmer, qui est un artiste allemand qui a créé la poupée, qui est ce personnage-là, qui a un corps un peu dégingandé, enfin éclaté, je ne sais pas comment décrire cette poupée, mais on sent qu'il y a un visage féminin, et à la fois c'est une poupée qui est très érotisée et en même temps complètement démantelée. Et donc cette image-là, elle m'obsède depuis des années. Et je m'identifiais beaucoup à cette poupée-là. Ensuite, j'ai rencontré dans ma vie une marionnettiste qui est devenue une amie, et j'ai été fascinée par son travail. Et puis, dans l'idée de créer une dramaturgie pour le film, et de montrer que malgré un traumatisme qu'on peut vivre à l'adolescence, il y a une résilience possible, et que le personnage devenu adulte est en capacité de regarder cette histoire et de la raconter, et de créer du sens avec ça. Et du sens et de la poésie. Donc c'était une manière d'apporter une dimension, une distance et une conscience. Et donc le personnage adulte, on va nous accompagner effectivement en pointillé tout au long du film. Il va y avoir cette voix off qui nous raconte au début un peu cette histoire, et on va voir cette marionnette apparaître, parce que du coup le personnage adulte est devenu marionnettiste et va nous raconter, ou en tout cas elle nous raconte pas, mais en tout cas avec les marionnettes va nous montrer des états émotionnels. Et tous ces moments de respiration effectivement arrivent
Après, les moments les plus durs.
Les plus durs, voilà. Après les scènes d'abus aussi, où c'est ces moments, comme vous dites très bien, où le personnage est dissocié. Et en fait aussi, cet imaginaire de la marionnette, du tissu, d'un visage qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de bouche, puisque c'est, la marionnette a été conçue comme ça, c'est aussi comme une illustration de qu'est-ce qu'un corps qui va être à un moment vidé de sa substance, vidé de son énergie vitale, et comme on a un corps un peu mort quand on vit un traumatisme, un choc traumatique et qu'on est sidéré, il y a comme la vie qui s'échappe de nous. C'est aussi comme un écho de l'épouvantail qu'on peut voir dans le pré ou du drap dans lequel Cassandre, après une scène d'abus, s'enroule dans son drap blanc comme dans un linceul. Donc c'était aussi comme développer cet imaginaire de la mort symbolique et de la perte de l'innocence et de la virginité, enfin quelque chose qui rappelle ça. Et donc la marionnettiste qui est une amie a conçu ses marionnettes en s'inspirant de son travail qu'elle avait pu faire et des poupées de Hans Bellmer. Donc Chloé Cassagne, une marionnettiste que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Et puis voilà, ça permettait d'apporter des moments de respiration dans le film, tout comme le cheval et les moments avec les chevaux apportent des respirations au personnage.
Ouais. Alors, on va revenir sur le personnage de Cassandre, hein, parce que peut-être qu'il y a des scènes qui sont... Qu'on peut avoir du mal à comprendre quand elle provoque son frère. Ces scènes-là, dans un premier temps, on se dit, mais c'est elle qui provoque. Enfin, lui aussi, par sa façon de faire, mais quand même, c'est elle. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus ?
Bien sûr. En gros, il y a trois grandes scènes, on va dire, d'abus où le frère confronte sa sœur. Sur la première scène, elle est totalement sidérée, elle ne réagit pas, elle se laisse faire et elle ne peut que se retourner à la fin. Et c'est là que la voix intérieure du personnage nous raconte ce qui se passe pour elle. Ensuite, dans les deux autres scènes qui arrivent, effectivement, on pourrait croire qu'elle provoque. Et mon psy me disait à situation anormale, réponse anormale. C'est-à-dire qu'un cerveau sain dans une situation saine, il a une réaction qu'on pourrait dire totalement logique. Et là, on voit ce personnage-là qui réagit et qui finalement va confronter son frère. Elle est formatée, c'est-à-dire qu'elle est matrixée, on va dire, par son père qui l'a éduquée comme une guerrière, qui est fan de jeux de stratégie. Et dans sa tête, du coup, il y a cette idée de stratégie, de confronter l'adversaire, l'ennemi.
Elle le dit d'ailleurs.
Elle le dit
dans la voix off. Oui, elle le dit sans arrêt. Qu'il y a trois, comme le père l'a dit avant, il y a trois façons de faire la guerre, quoi, en gros. Hein.
Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, et aussi parce qu'elle connaît la fragilité de son frère, que c'est un beau parleur qui raconte et qui fait un peu le cacou, mais en vrai, qui est un peu une lavette, on va dire. Et donc, elle sait, dans la deuxième scène, elle le confronte en se disant, c'est comme au poker, on fait tapis et on se dit que l'autre, il va avoir peur et qu'il va, et qu'il va pas y arriver. Et c'est ce qui se passe, en fait. Elle le confronte en le menaçant, entre guillemets, et finalement, il va pas réussir à gagner ou à faire ce qu'il doit faire.
Et lui doit de l'argent après.
Et dans la troisième scène, elle est un peu dans cette même idée où elle veut le confronter pour qu'il échoue. Et finalement, ce moment-là va être beaucoup plus dur parce que ça va se retourner contre elle. Mais à ce moment, la voix off aussi apporte des éléments... où on raconte quand les poilus étaient dans les tranchées dans la guerre 14-18, qu'à un moment il devenait complètement fou dans les tranchées et qu'il finissait par sortir des tranchées et courir sur le champ de bataille pour en fait aller vers le danger et être tué en fait. Et cette idée de à ce moment-là pour le personnage, c'est cette idée de ne pas être victime, de ne pas accepter cette condition de victime et d'avoir cette sensation qu'elle peut reprendre le pouvoir d'une manière étrange, mais qu'elle peut reprendre le pouvoir sur la situation, parce que si elle décide quand est-ce que ça va se passer, comment, qu'est-ce qu'il va faire, elle n'est plus tout à fait victime. Donc c'est très complexe à appréhender. Effectivement, on peut se dire, mais en fait, c'est elle qui le provoque, c'est chelou, machin. Et en vrai, il y a tout un mécanisme psychologique de défense, en fait, où elle se dit que si elle peut maîtriser la situation, elle n'en est plus victime. Donc, mais elle a peu de latitude, puisqu'elle reste quand même sous l'emprise et sous la contrainte d'une situation qui est quand même problématique, et sans avoir le secours de personne, parce que les parents ont leurs problèmes et ne sont pas aidants, ne sont pas au soutien. Parce que son tréquesse, elle peut pas raconter ce qui se passe, parce qu'en fait, les gens la regarderaient avec des yeux pas possibles, parce que aussi toute la société et cette famille-là aussi oblige à un silence, et qu'elle sait qu'elle est seule et qu'elle doit trouver, on va dire, la force ou les ressources en elle pour se confronter et se sortir de cette situation. Mais effectivement, elle est piégée, et piégée presque à son propre jeu.
Alors, on est en 1998, on parlait pas d'inceste, hein, puisque ça restait tabou. On disait même, avec les recherches diverses, que c'était un tabou, l'inceste. Et en fait, c'est pas ça qui est un tabou, c'est le fait d'en parler qui est un tabou. Mais c'est pas le fait que les victimes ne disent rien, c'est que les autres ont les oreilles bouchées et n'entendent pas, parce que finalement elle a quand même des signes corporels et de comportement qui dans une famille ça se voit qu'elle évolue, qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ça elle peut pas le dire.
Il y a une injonction au silence dans la société, enfin là qui se libère, mais effectivement à l'époque il y a une injonction au silence dans les familles aussi, où en fait il faut taire ses malheurs, il faut laver son linge sale en famille, il faut pas dire les événements qui ont pu avoir lieu, parce que il y a quelque chose d'honteux, il y a quelque chose de sale, et effectivement on se rend compte que c'est extrêmement fréquent. Enfin, quand les chiffres sont sortis, les chiffres de la CIVIS en 2023, c'est quasiment près de 6 millions d'inceste déclaré, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne témoignent pas, mais on est déjà donc à 10% de la population, ça veut dire 3 enfants par classe. Donc en fait, on est tous, comme le dit très bien l'anthropologue Dorothée Ducy, socialisés par l'inceste. Soit on y est confronté, soit on connaît des gens qui ont été confrontés, et en fait, il y a une sorte de système silence qui est en jeu et qui est à l'œuvre sur ces questions-là. Effectivement, aujourd'hui, l'écoute commence à se libérer, on commence à entendre du coup les paroles, mais encore hier je dînais avec une amie qui a donc sa fille a malheureusement été victime d'un inceste avec son cousin, et en fait toute la famille l'a rejetée. Elle est devenue la personne qui a parlé est la personne que toute la famille rejette, parce que elle a dénoncé un abus, et que la famille a éclaté suite à ça.
Et elle a sali la famille.
Voilà, et en fait c'est terrible encore d'en être là, et j'essaie avec ce film, ce que j'avais envie de faire, c'est justement d'oser montrer la réalité et la complexité de ces climats-là, parce que c'est très complexe, et parce que on va dire chaque personnage a ses raisons et s'arrange aussi avec ses problèmes, avec son héritage, avec la situation, et que d'oser regarder la complexité, c'est oser mettre de la lumière là-dessus, sur une zone qui est éminemment grise, et c'est essayer de créer du dialogue, en fait. Et à partir du moment où la société sera beaucoup plus aidante ou accompagnante des auteurs d'agression et des victimes, évidemment, pour les trajets thérapeutiques suite à des traumatismes, bah c'est comme ça qu'on va réussir à, on va dire, cesser ce fléau, en fait. Mais effectivement, c'est très complexe. Comment on est. Il y a une obligation de silence qui rôde encore.
Face à la princesse, il se dit : suis-je bête ? Entre eux. quand femme varie, si elle se débat, c'est pour mieux dire oui.
Obligation de silence, et puis alors là c'est plus une enfant, mais pour les enfants il y a aussi l'incapacité à mettre des mots sur des choses qu'on connaît pas, qu'on pressent comme hyper anormal, hyper dangereux. On veut pas mettre les mots parce que on sent le danger aussi, hein. Et d'ailleurs dans le film, vous montrez bien la réaction du père et de la mère quand Cassandre dit ce qui est arrivé. Le père
banalise.
Et la mère, elle dit toutes les femmes doivent y passer, quoi, en gros.
Oui, c'est terrible parce que le personnage de la mère, dans cette scène-là, on sent toute sa souffrance à elle et que personne n'a accueilli, entendu, réparé. Que elle, dans sa vie, elle ne l'avait jamais dit, et que personne n'a été là pour l'aider, elle, enfant, elle, jeune femme, qui s'est fait violer. Tout comme le père n'a pas été non plus accompagné, victime des curés pédophiles, comme on lui, il a dû se construire avec ça, en fait. Et donc, ce sont des parents qui sont empêchés, qui sont défaillants, parce que eux-mêmes n'ont pas reçu de l'empathie et de l'accompagnement. Et ils sont, du coup, complètement incapables d'accompagner, de comprendre, d'apporter du soutien et de la réparation à leurs enfants. Le père, il y a une sorte, c'est pas du déni parce qu'il banalise, il dit ça existe dans toutes les familles, c'est vrai, ça existe dans toutes les familles élargies en tout cas. Et la mère, elle est traversée par une réaction émotionnelle hyper forte parce que je pense que ça ravive sa blessure et qu'elle n'est pas en mesure d'accueillir la souffrance de sa fille. Et d'ailleurs, dans son monologue, il y a aussi des contradictions. C'est qu'elle lui souhaite d'être autonome, elle lui souhaite en lui disant concentre-toi sur tes études, gagne ton propre argent, comme ça tu devras rien à personne. Donc en même temps, c'est d'une violence où elle va engueuler sa fille et en gros lui dire de se taire, et en même temps elle lui dit émancipe-toi. Donc c'est tout comme elle n'a pas réussi à le faire. Donc tout est toujours pétri de paradoxes en fait et de contradictions.
Très, très complexe, tout, oui. Et alors, le sous-titre, c'est la mécanique des ombres. Hein. Vous pouvez revenir là-dessus ?
Bien sûr. Pour moi, Je parle évidemment du personnage de Cassandre, c'est elle qu'on suit tout au long du film. Mais c'est l'histoire d'un système familial et même au-delà d'une société. C'est vraiment quelque chose de systémique que je veux regarder. C'est les mécanismes qui sont en jeu dans ce système. Et donc la mécanique des ombres, pour moi, c'était l'idée d'essayer de démanteler les liens et les mécanismes qui sont en jeu et d'observer les ombres qu'il y a en nous, en chacun de nous. Et comment la violence peut se répercuter de personnage en personnage, de génération en génération, comment ça va ruisseler comme un effet domino. La violence subie par le père à l'armée quand il a fait la guerre fait que c'est un être violent qui va du coup violenter dans l'éducation son fils, et malgré lui le fils va répercuter cette violence sur sa sœur, qui à un moment quand elle est bousculée par ses émotions et qu'elle est à cheval et contrariée parce que son cheval ne saute pas dans l'obstacle, va violenter son cheval. Et donc en fait c'est de voir comment chaque personnage porte aussi cette dualité là en lui, en fait, de l'ombre et de la lumière, et comment cette mécanique des ombres est en jeu et en permanence, en fait. Et comment on porte ça,
en fait. C'est tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on n'a pas pu résoudre,
oui.
qui est agissant. Et ça, dans la psychanalyse, on le sait, ça. On le sait, que ce soit dans les lapsus, que ce soit dans les rêves, les rêves qui deviennent souvent des cauchemars, c'est ce qui n'a pas pu être résolu, finalement, collectivement aussi.
Collectivement et individuellement, et, tout ce qui est loyauté inconsciente, tout ce qui est les injonctions, tout ce qui est les névroses familiales, on en est emprunt vraiment, enfin. Et donc c'est cette idée là effectivement. Et après je parle de ça, mais ce que je voulais vraiment transmettre dans le film, c'est une énergie de vie, une énergie vitale, quelque chose, un mouvement de la vie qui est plus fort que tout et qui nous amène vers autre chose, vers la lumière.
Mais Cassandre, elle apparaît avec un comportement relativement violent.
Elle est dure.
C'est pas une fille douce. C'est une fille guerrière plutôt.
Elle a deux facettes. Ouais. Elle a ce côté-là guerrier.
Et elle avance, elle. Elle avance et de fait elle avance vers la lumière. On le sent au travers de tout le film, parce qu'on sait qu'on va pas s'arrêter dans l'ombre ou dans le noir. On le sent qu'on va aller vers la lumière. Aujourd'hui, par rapport aux années 90, et là on est dans les années 2020, qu'est-ce qui, d'après vous, a changé? Parce qu'effectivement, on est après MeToo, on est après la prise de parole d'un certain nombre d'artistes, mais pas que, puisque dans plusieurs professions, moi je viens du monde de la santé, là aussi la parole se libère, on ose dire frontalement, alors qu'avant on le disait mais en catimini. Qu'est-ce que pour vous ça a changé, et quel espoir finalement on peut avoir que ça s'accélère surtout?
L'écoute s'est libérée et j'ai bon espoir que les actes suivent. Après, on se rend compte là avec les promesses d'un gouvernement qui disait qu'ils allaient vraiment prendre en compte les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, et que dans les faits, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de budget alloué à ça, et les actes restent pour l'instant pas très concluants. Quand on voit que malgré le nombre de plaintes qui ont été posées contre PPDA, contre Depardieu, etc., les affaires traînent, quand on voit qu'il y a encore énormément de plaintes qui sont classées sans suite, parce que par manque de preuves, c'est très complexe. Donc j'ai bon espoir qu'on accompagne mieux les auteurs d'agressions et qu'on accompagne mieux les victimes dans un trajet, on va dire, thérapeutique, et que la parole puisse continuer à se libérer pour faire de la pédagogie, pour expliquer les phénomènes aussi psychologiques qui sont en jeu, comme la dissociation, etc. Le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir réagir, d'expliquer en fait tous ces mécanismes-là aussi, la notion du consentement, de réexpliquer en fait aux hommes, de dire en fait quand quelqu'un ne dit pas oui ou même quand il ne dit pas non, etc. En fait, d'observer que en fait quelqu'un peut être sidéré, etc. Moi, j'ai été par exemple violée à l'âge adulte par un professeur d'université. Parce que souvent, on se rend compte hein, que quand on subit des violences dans l'enfance, ben, on va être confronté du coup dans la vie à ce type de violence. Et en fait, la personne a commencé à m'embrasser, à me plaquer contre le mur, à me déshabiller. Et moi, en fait, je riais. Et je répétais en boucle, mais vous êtes fou, mais je vais me marier, mais vous êtes fou, mais je vais me marier. Je n'arrivais pas à dire autre chose. Donc il y a quelque chose de, à la fois très comique, enfin, dans ce personnage, si je me vois comme un personnage, ce personnage qui est bloqué contre le mur et qui répète en boucle, mais vous êtes fou, mais je vais me marier, mais vous, et qui rit nerveusement. Et en fait, ça, c'est un mécanisme de sidération, d'être empêché de réagir, alors qu'en face de moi, le mec, j'aurais pu le pousser. Dans mon état normal, j'aurais pu le pousser et il serait tombé, enfin, ou j'aurais pu m'échapper. J'ai les forces, j'ai des muscles, j'ai du tempérament. Mais en fait, dans ces moments de sidération, on perd ses moyens. Donc, ou souvent. Mais donc, c'est d'expliquer tout ça aussi, de dire que je suis sûre qu'il y a plein d'hommes, parce qu'ils sont baignés et éduqués depuis des décennies, et parce qu'on a hérité du patriarcat, ne sont même pas en conscience de des fragilités ou de ce que leur désir et si leur désir n'est pas forcément réciproque, etc., etc. Et je pense que cet homme, ce prof d'université, était envahi d'un désir qui l'a complètement aveuglé, et ayant moi une réaction totalement absurde, il n'a pas mesuré qu'il abusait en fait de sa position dominante, qu'il abusait de son statut, qu'il abusait d'une jeune fille qui avait 30 ans de moins que lui. Donc je pense qu'il y a une part d'aveuglement, et qu'en fait plus on fera de la pédagogie, plus les hommes s'intéresseront et s'éduqueront, plus on arrivera à avoir des rapports humains entre les hommes et les femmes qui seront partagés et épanouissants en fait.
Il y a dans ce que vous dites, évidemment, je suis complètement d'accord avec vous, hein, mais d'un côté, il faut éduquer les petits enfants, alors filles et garçons.
Et les filles, il faut leur apprendre à dire voilà. Non, à s'imposer, à poser des
Et après, il faut éduquer les hommes. Mais il faut aussi que les filles, il faut pas que ça repose que sur les filles, puisque notre émancipation elle repose quand même beaucoup sur les filles, et que les hommes font pas beaucoup d'efforts, hein.
Non, c'est sûr.
Mais il faut aussi que les filles osent s'affronter, osent se bagarrer. Mm-hmm. Voilà, je pense au livre de Virginie Despentes, hein, qu'elle avait un couteau dans son sac, elle l'a pas sorti parce qu'elle avait peur que le couteau se retourne contre elle, alors qu'elle aurait pu le sortir et être sûre d'elle, de le planter ou de menacer. Mais elle avait tellement peur que le couteau se retourne contre elle qu'elle l'a même pas sorti. Et c'est peut-être ça aussi, dans le moment de l'abus, du viol, ce qui se passe, c'est que si je me laisse faire, ça durera moins longtemps. Si je me bagarre, ça va durer plus longtemps. Et c'est moi qui serait encore plus abîmé.
Tout à fait. C'est complexe, en fait, dans ces moments où on a peur de la mort, en fait. Il y a un truc très animal qui nous confronte. Je pense que dans l'éducation des filles, il faudrait, à l'école, qu'on apprenne la self-défense, en fait. Déjà, comment on se défend si quelqu'un nous attrape par derrière, par devant, machin, ceci, par surprise et tout. Quels sont les mécanismes, en fait, pour que nos corps, ils aient un réflexe de survie et d'attaque et de défense qui mettent l'agresseur dans l'incapacité d'agresser, de continuer l'agression. Donc, il y a des cours de self-défense qui se font de plus en plus, féministes, en mixité, en non-mixité choisie. Donc, il y a des choses, mais c'est vrai que Il faut faire la démarche pour accéder à ça. Et moi, je trouve que ce serait quelque chose d'important à mettre à l'école, en fait.
À l'école,
d'apprendre,
oui,
les filles à se défendre, en fait,
absolument,
tout simplement.
Absolument.
Et d'apprendre aussi, enfin, et de cesser aussi, parce qu'il y a toutes les injonctions faites aux femmes de se taire, d'être polie, de pas crier, de pas être en colère, de pas être agressive, etc. Dès qu'une femme hausse le ton, on dit qu'elle est folle, alors qu'un homme qui hausse le ton, on dit, oh, il a de l'autorité, c'est bien. Donc, c'est essayer de transformer toutes ces injonctions qu'on a, qui nous enferment et qui nous piègent et qui nous empêchent d'être humains et d'être en lien hommes et femmes, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est tous victimes, et les femmes le sont plus parce qu'elles en meurent avec tous les féminicides. Mais il y a un endroit où les relations hommes-femmes s'appauvrissent, en fait, parce qu'on ne peut pas être épanoui comme on pourrait l'être, comme on voudrait l'être, et qu'on est piégé par le système, quoi. Question de la création qui m'intéresse, la catharsis, comment on va utiliser la matière de ce qu'on peut vivre et de nos blessures et de nos traumas et des difficultés auxquelles on est confronté, et comment, grâce à l'art, on va sublimer quelque chose, créer du sens et créer du lien avec les autres. Et si j'ai cette capacité à créer, à écrire, à faire des images, eh ben, j'ai une responsabilité de prendre la parole pour d'autres qui n'ont pas accès à ça.
Cette possibilité-là.
Voilà. Et ouais. Donc, et voilà. Et j'aime, voilà, j'aime ça.
Peut-être on peut aussi parler de la musique du film, hein, puisqu'il y a plusieurs moments musicaux. Comment vous avez choisi cette musique?
Alors, on a travaillé avec la compositrice qui s'appelle Delphine Malocena, que je connaissais auparavant parce qu'elle était ingénieure son. Et on a beaucoup échangé des références Vivaldi, Schubert, Bach, enfin tous les morceaux qui m'ont habité pendant l'écriture et que j'imaginais pouvoir résonner avec l'esprit un peu baroque du film. Et donc elle a composé, et avant même le tournage, elle m'a envoyé des morceaux, et il y avait déjà le thème du film, c'est-à-dire le morceau qu'on retrouve et qui apparaît sous différentes variations au cours du film. Et d'ailleurs, le morceau de fin, donc c'est ce thème-là, et très très vite avant même le tournage, en fait, le jour où j'ai entendu ce morceau, j'ai imaginé des voix, hein, une voix de baryton, une voix de soprane, et qui se mêleraient, en fait, et qui raconteraient l'idée d'une réconciliation possible entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme, en nous, autour de nous. Et donc, ces voix-là, donc, j'ai écrit un poème en français, et la chanteuse soprane qui s'appelle Sarah Di Bella a traduit ces paroles et les a ajustées, on va dire, sur la mélodie de la compositrice, et on a enregistré ce morceau. Et donc c'était très beau de voir aussi comme vraiment la parole qui se libère dans le chant lyrique, dans ce moment de fin, et qui raconte les blessures et la réconciliation possible.
Et on n'a pas donné le nom
des acteurs.
Donc la Cassandre, c'est Billy Blin.
Voilà. La mère est formidablement interprétée par Zabou Breitman, qui est vraiment incroyable dans ce rôle. Le père est incarné par Eric Ruff, qui est l'administrateur de la Comédie Française, et qui est un acteur fin, drôle et vraiment incroyable, qui a une autorité qui est assez dingue. Et puis le frère est joué par Florian Le Sieur, qui est un acteur, je pense, qui va vraiment exploser dans les prochains mois, les prochaines années, qui est d'une sensibilité, d'une intelligence folle. Il y a Guillaume Gouix qui joue le moniteur d'équitation, Laïka Blanc-Francard qui joue la copine. Et puis, et à l'image du film, donc au chef opérateur, c'est David Caillet qui a eu un César pour le règne animal l'an dernier. Et puis, donc la compositrice Delphine Malocena. Et voilà, il y a toute une équipe derrière ce film qui est incroyable. Il y a une énergie sur le tournage qui était folle. Tout le monde était ultra investi. Je crois que c'était vraiment un choix de cœur pour tous les gens qui ont choisi de faire ce film, malgré les conditions financières qui étaient inférieures à ce dont on avait besoin. Il y avait vraiment une énergie, on était tous portés par quelque chose qui nous a fait travailler, trouver des idées, des trucs incroyables, comme la chef machiniste Laura Marais qui a trouvé un système de travelling à cheval pour pouvoir filmer à hauteur des chevaux les comédiens. Et donc elle était assise à l'envers sur un cheval avec toute une armature, quelque chose qui permettait de porter la caméra avec un stabilisateur, et elle a filmé du coup les acteurs en étant elle-même à cheval. Donc on a trouvé plein d'astuces comme ça pour rentrer dans le budget et faire ce film, et on était tous portés par quelque chose, une énergie de vie folle et joyeuse. Donc ça, c'était très beau.
En tout cas, le film il ouvre tout ce champ de discussion qu'on vient d'avoir là, hein. Il ouvre la responsabilité de chacun dans les actes qui sont posés, et votre film est mérite d'être vu, revu. Et c'est pour ça qu'on a fait cette interview. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Hélène.
Voilà, le film d'Hélène Merlin sort donc sur les écrans le 2 avril prochain. Je rappelle le titre, c'est Cassandre. Et dans cette interview, nous avons pu écouter Aquatique, donc une partie de la bande son. On a écouté aussi Jeanne Chéral qui chantait Quand c'est non, c'est non. Une autre partie de la bande son vivante. Et le dernier morceau qu'on vient d'écouter s'intitule Le Chemin, et c'est la bande son de la fin du film. Voilà, on passe au quatrième temps de cette émission avec des infos, des communiqués, des rendez-vous. Donc je rappelle que la Maison des Femmes de Paris, au 163 rue de Charenton, dans le 12e, eh bien, a besoin d'être soutenu parce que c'est un espace d'initiative et de solidarité féministe, non mixte, et que vous pouvez l'aider financièrement par des dons et des adhésions en allant sur Hello Asso, aller chercher association et ensuite Maison des Femmes de Paris. Et sinon, le téléphone 01 43 43 41 13 et le site mdfparis.wordpress.com. Un autre film très très beau aussi, alors qui est très différent de ce qu'on vient de, d'entendre avec Hélène Merlin, c'est Nora Philippe. Et Nora Philippe, moi je l'avais connue parce qu'elle avait fait un film sur des poupées noires au Brésil, des poupées qui étaient venues en France dans une expo à la Maison Rouge. Bon, la Maison Rouge n'existe plus, mais ça avait été exposé. Et elle avait pensé que, comme elles allaient repartir au Brésil, qu'il fallait en faire quelque chose pour qu'en France, ça puisse avoir une autre vie, quoi. Donc, elle avait fait un film sur les poupées noires, très, très intéressant. Là, elle est partie sur un autre projet. Ça s'appelle Girls for Tomorrow. Pendant 10 ans, de 2015 à 2025, elle a suivi 4 étudiantes qui ont donc vieilli de 10 ans de plus, mais comme elle, et comme son bébé, parce que son bébé est né en 2015. Donc c'est une offre à sa... C'est une petite fille. Une offre à sa petite fille de voir 4 femmes... jeunes étudiantes et qui deviennent femmes et toujours féministes et toujours activistes, puisqu'elle a découvert à New York le Barnard College. Alors moi je ne connaissais pas, mais c'est une prestigieuse université pour femmes. Et elle a donc filmé ces quatre étudiantes qui sont engagées. Et elle les embarque avec elle dans un voyage intime et politique, à la fois sur le plan politique, mais aussi ce qu'elles vivent pendant ces 10 ans-là, parce que certaines vont se découvrir autre que ce qu'elles imaginaient. Et c'est aussi, derrière ce que je viens de vous raconter, eh bien la décennie états-unienne, marquée par la première ère Trump, par MeToo, par Black Lives Matter, la crise climatique, et elle s'arrête de filmer juste avant, en novembre 2024, juste avant les élections qui ont donné la deuxième ère Trump. Donc à la fois, on a quelque chose de très politique, de très féministe, et sur 10 ans, quoi. Et c'est pas rien sur 10 ans de voir comment des jeunes femmes vont évoluer. Voilà, ça s'appelle Girls for Tomorrow. L'avant-première aura lieu au Luminor le 31 mars. Et c'est une diffusion Arte. Donc on peut retrouver ce film le 9 avril sur Arte. Voilà. Alors là, c'est une dédicace pour toi, Sylvie, parce que il y a un mouvement qui s'appelle Stand Up for Science, qui appelle à faire du jeudi 3 avril une deuxième journée de mobilisation nationale, construite localement et ouverte à toutes celles et ceux qui défendent les sciences, la liberté académique, le rôle de l'université et de la recherche dans la société. Ça s'est construit en France en solidarité avec les scientifiques et au sens le plus large du terme, aux scientifiques aux États-Unis, en Argentine et partout où la liberté académique est menacée. Depuis, le mouvement s'est élargi. Il y a une tribune qui sert de manifeste, qui est parue dans le journal Libération. Et en gros, cette tribune dit que face aux crises démocratiques, économiques, sanitaires, climatiques et environnementales, produire, transmettre et préserver les savoirs est une nécessité. Cela n'est possible que si les savoirs sont pensés et défendus comme un bien commun. Et ça invite non seulement à signer cette tribune, mais aussi à la diffuser largement. Et elle est ouverte à tous les citoyens et citoyennes. Donc là, il y a une journée d'action plurielle le 3 avril. Et selon des modalités inventées de manière adaptée aux contextes locaux, aux moyens disponibles et aux formes d'engagement possibles. Donc dans les lieux d'enseignement et de recherche, dans les associations, les collectifs étudiants, les établissements scolaires, bibliothèques, centres culturels, les sociaux, les syndicats, les médias, et tout ça par des citoyennes et des citoyens. Voilà, cette journée doit refléter la diversité des engagements de Stand Up for Science à travers des initiatives comme hashtag Stand Up for Science pour visibiliser les attaques contre les sciences et la liberté académique, pour mobiliser les personnels, étudiantes et étudiants sur les campus, pour investir l'espace public à travers des événements de médiation scientifique et de dialogue avec la société civile, et pour donner de la visibilité aux engagements multiples du mouvement à travers des manifestations ou des performances pour la démocratie, l'accès au savoir, leur diffusion et leur indépendance, et pour affirmer l'engagement commun pour les sciences au service de toutes et tous. Et le mouvement continue en disant « Tout ce qui reste à inventer est tout à fait possible. » Voilà, le 3 avril, défendons les savoirs comme bien commun. Catherine...
Je connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, j'y trouve sous mes doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or. La couleur de ta peau pour lire les saisons, le creux de ton épaule pour ligne d'horizon, et tout autour de moi tes bras font le décor au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. La la la. J'ai vu des prodiges et de plus grands mystères que l'été en décembre ou que la neige en mai. À ce qu'il me semble, plus je le connais, plus je m'y perds. Et s'il mesure à peine 1m80, j'y fais plus de chemin avec un seul baiser qu'un enfant dans le ciel. Les hommes et leurs fusées, c'est un pays où l'on voyage avec les mains. Le pays de ton corps, le pays de ton corps, le pays de ton corps. connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, j'y trouve sous mes doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or, couleur de ta peau pour lire les saisons, le creux de ton épaule pour ligne d'horizon. Quand paresseusement je m'enroule et m'endors au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps.
Voilà, on vient d'écouter Catherine Le Forestier, Au pays de ton corps, donc une ancienne chanson d'elle, du temps où elle était en France, avant qu'elle ne parte en Algérie, mais depuis elle est revenue aussi en France. Et c'est comme ça que je l'ai rencontrée l'année dernière à la librairie Publico. Un ouvrage collectif, Grey Pride, Autrement vieillir, vulnérabilité et résistance LGBT+. L'inclusion et le respect des personnes âgées LGBT+ sont au cœur de l'ouvrage collectif Autrement vieillir, vulnérabilité et résistance LGBT+, édité par Grey Pride. Ce livre explore les défis spécifiques auxquels sont confrontés les seniors LGBT+, tels que l'isolement, la discrimination, la silenciation et l'invisibilisation. Ces récits vibrants révèlent des vies souvent marginalisées tout en valorisant la résilience et la solidarité. L'ouvrage insiste sur l'importance du récit de soi, un outil clé pour retrouver fierté et dignité face aux préjugés. Il appelle à une mobilisation intergénérationnelle, reconnaissant que l'isolement et le vieillissement sont des défis universels. Oui, il n'y a pas que les personnes LGBT+, toutes les personnes âgées peuvent un jour ou l'autre se retrouver bien sûr isolées. Mais les associations LGBT+ jouent un rôle central dans cette démarche, en créant des espaces de discussion et en invitant à en parler dans des cadres publics, tels que des librairies parisiennes et régionales. Ces lieux peuvent devenir des plateformes pour sensibiliser et engager un dialogue ouvert autour de ces thématiques. Alors là, le livre sort, et du coup, le 27 et 29 mars, le livre sera présenté à Montpellier, au Corum, de 10h à 18h. C'est très large, comme... temps de présentation sur deux jours entiers. Hein. À Paris, ça sera au Printemps des Assos, au Blanc Manteau, les 5 et 6 avril, de 10h à 17h. À Paris aussi, à la librairie Violette & Co, le 17 avril, à 19h30. À Toulouse, à la librairie Les Ombres Blanches et Terra Nova, le 19 avril. Au centre LGBTQIA+ de Paris-Île-de-France, le 7 mai, de 16h à 19h, et à La Rochelle, le Grey Pride, ce sera Grey Pride 17, les accueillera les 6 et 7 juin.
La nuit, je n'ai plus d'importance. J'obéis à l'oubli. Oh, la nuit, et égaré, je me lance. J'obéis, je m'oublie, je n'ai pas la force de comprendre d'où elle vient. Je veux quitter son lit, mais je déteste le matin. Je n'ai
c'est peut-être la nuit qui va s'abattre une fois de plus sur la révolution que les iraniennes et soutenues par les Iraniens ont essayé de relancer en 2022. Parce que depuis 1979, les femmes en Iran ont l'obligation de dissimuler leurs cheveux dans les lieux publics. Mais elles sont de plus en plus nombreuses à apparaître sans voile dans la rue, particulièrement, évidemment, depuis septembre 2022, lors du mouvement de contestation déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini, cette Kurde iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire en vigueur dans le pays. 2 ans après, une nouvelle loi
approuvé au Parlement iranien, prévoit un durcissement de l'obligation du port du voile et le texte doit obtenir le 13 décembre la signature du président iranien pour entrer formellement en vigueur. En fait, la loi vise à soutenir la famille et à promouvoir la culture du hijab. Concrètement, elle prévoit des amendes pouvant représenter en cas de récidive jusqu'à 20 mois de salaire moyen pour les femmes mâles ou non voilées en public ou sur les réseaux sociaux. Pour être appliquée, elle prévoit aussi l'utilisation de caméras ou encore d'intelligence artificielle capable de détecter des photographies sur les réseaux sociaux, autant d'instruments de surveillance inspirés de la Chine. Le texte criminalise aussi les complices. L'autorité judiciaire pourra ainsi décider, si la loi est promulguée, de fermer les restaurants, les cafés, les commerces, les cinémas ou les musées dans lesquels les contrevenantes auraient été remarquées. Dans le même ordre, le chauffeur de taxi pourra se voir retirer sa licence. Avec cette loi très sévère et très dissuasive, le régime espère monter les Iraniens les uns contre les autres et instaurer une culture de la dénonciation. C'est explosif, d'autant plus qu'aujourd'hui dans les villes, les femmes sont de plus en plus nombreuses à ne pas porter le voile. Donc, ce projet concerne en fait un style de vie. Et force est de constater que malgré 4 décennies de propagande islamique dans les écoles et les universités, la jeunesse se libère aujourd'hui des codes de l'islamisme. Dans de nombreuses villes, il y a des femmes qui habitent seules, des couples qui ne sont pas mariés, des femmes entrepreneuses, autant de choses qui sont insupportables pour le fondamentalisme islamique au pouvoir. Car la République islamique est misogyne dans son essence. Elle est fondée sur l'islamisme pur, selon lequel l'homme est propriétaire de sa femme, qui ne peut en conséquence se montrer que devant son mari. La constitution de la République islamique est davantage islamique et arabe qu'iranienne et perse. Et il y a une rupture très nette entre la population et le régime. On peut dire que le régime est réellement à l'agonie. Et cette nouvelle loi en est un signe supplémentaire. Sur le plan extérieur, il a perdu son axe de la résistance avec les défaites du Hamas et du Hezbollah contre Israël. Il a perdu cet axe de résistance aussi avec la chute de Bachar el-Assad, qui met un terme définitif à cette profondeur stratégique qu'il s'était évertué à construire avec un accès à la Méditerranée au prix de près de dizaines de milliards de dollars en Syrie et au Liban, et des sommes faramineuses qui auraient dû être investies évidemment dans le développement du pays. Et sur le plan intérieur, la population n'attend plus rien du régime. D'ailleurs, les taux de participation aux élections sont en chute libre. À Téhéran, seulement 33% de la population a voté à la dernière élection présidentielle. Ils étaient moins de 10% aux dernières élections législatives. Et ça, c'est selon les chiffres officiels, hein. Cela veut dire que 90% des habitants de la capitale du pays, qui compte 14 millions d'habitants, ne se sont pas rendus aux urnes. Le régime connaît une crise profonde de légitimité politique. D'ailleurs, certains des ayatollahs les plus influents de Qom, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie du clergé chiite, assument désormais tout à fait qu'il n'est pas si grave d'avoir perdu la légitimité populaire, puisque la seule légitimité vient d'en haut, du ciel et non du peuple. Voilà, il y a des signes très visibles d'une tendance à la sécularisation. Les mosquées des universités sont de plus en plus vides et l'on voit même au moment du Ramadan de plus en plus de gens boire et manger dans la rue. Ce sont des choses que l'on ne voyait pas il y a 15 ans. L'espoir d'une révolution démocratique est donc encore très fort, mais il faut comprendre que si les multiples oppositions ne sont pas dans une logique armée, le régime, en revanche, est prêt à tuer des milliers de personnes pour rester au pouvoir. Je termine en disant que Pezeshkian, qui est celui qui doit faire passer la loi, il pressent sans doute le potentiel explosif de la loi en déclarant que le gouvernement risque de gâcher beaucoup de choses dans la société. Mais on est à peu près sûr que la loi va quand même passer, à moins que, évidemment, des millions d'Iraniens et d'Iraniennes ressortent dans la rue.
L'un de mes grands souhaits, alors je sais, en France, on ne fait pas du tout la même chose, et c'est effectivement, ce n'est pas la même chose, et heureusement, mais l'un de mes grands souhaits, en fait, ce serait qu'on puisse, voilà, une grande marche, une grande, grande marche féminine en soutien aussi, parce qu'effectivement, il se passe voilà, des choses quand même très, beaucoup plus compliquées quoi, pour des femmes, que ce soit en Iran, en Afghanistan, dans d'autres pays. Donc une grande marche ici, où on serait là, alors sans forcément une immense colère, mais on serait là à dire oui, abat le voile, c'est l'asservissement de la femme, et qu'en fait, voilà, on n'en veut pas de ce voile, on n'en veut pas, c'est l'asservissement de la femme. Et si on a, voilà, c'est un de mes souhaits, une grande marche pacifique, féministe, on serait toutes, oui, à dire qu'effectivement, le voile, c'est l'asservissement de la femme.
Alors, le 8 mars, il y avait un cortège très important du soutien aux Iraniennes et aux Afghanes. Il y avait aussi du soutien pour les Gazaouis. Hein. Mais il y avait... j'avais rarement vu autant d'Iraniennes et d'Afghanes dans la rue, hein, le 8 mars. Mais ce que tu dis, effectivement, il faudrait que ça soit le moteur.
Le mot d'ordre, entre guillemets.
D'une grande marche qui puisse fédérer toutes celles qui sont opprimées. Et par rapport à la bande de Gaza, qui puisse faire converger à la fois des Gazaouis, des Palestiniennes, et puis des Israéliennes. Voilà, que bien tout sûr. Le monde puisse être dans la rue en même temps. On peut rêver. Alors, dans les informations, du 4 mars au 3 avril, à la bibliothèque Jacqueline Dreyfus Veil, 6 rue Fessard, dans le 19e, c'est une expo sur les luttes des femmes dans les années 70, un récit des archives. L'entrée est libre et la visite commentée, il y en a une de prévue, le 2 avril à 18h30. En mars et avril, au Café Fusain, se tient toujours l'exposition VIS. Alors VIS, c'est violence policière, hein, contre les violences policières. Par Even, et le Café Fusain, c'est 50 avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement. Jusqu'au 28 avril, les élèves de Jean-Jacques Henner, c'est une expo au Musée National Jean-Jacques Henner, 43 avenue de Villiers, dans le 17e. Je suis allée voir cette expo. Alors, Jean-Jacques Henner, il avait ouvert une académie pour des filles, au moment où les filles n'avaient pas encore le droit d'avoir leur propre académie. Et ce sont les élèves leurs œuvres qui sont exposées, ainsi que les œuvres de Jean-Jacques Henner. Et on voit comment la filiation est reconduite à partir de Jean-Jacques Henner, mais comment aussi des peintres femmes ont trouvé leur propre voie et ont
quelque part bifurquer. On a les publications des éditions du Monde Libertaire. Alors, je disais, encore des dernières semaines, les 10 livres, mais il y en a plus que ça. Mais tous ces livres sont à 10 euros chacun. Donc là, vient juste de sortir en mars Paul Robin, La liberté ou la mort, de Sylvain Vagnon. En février, c'était Louis Lecoin et le mouvement anarchiste de Sylvain Garel. En février aussi, Abolir l'armée de l'UPF. En fait, Louis Lecoin et Abolir l'armée de l'UPF sont sortis exactement en même temps. En janvier, Terre Sainte, Guerre sans fin, la création de l'État d'Israël en Palestine, sionisme et utopie. Et ça, ça a été rédigé par le réseau MACNO. En décembre, l'éducation intégrale de Paul Robin, des textes qui sont sélectionnés, expliqués et commentés par Hugues Lenoir. Pierre Sommermeyer avait fait paraître en novembre 2024 « Guerre à la guerre ». Voilà. Émilie Lamotte, « Vivre en anarchiste » de Marie-Pierre Tardif et Sylvain Vagnon, le fameux Sylvain Vagnon qui vient de sortir Paul Robin, La liberté ou la mort. Et ça, c'était en novembre 2024. Moi, j'avais sorti La guerre contre les femmes contre la guerre, pareil, en novembre 2024. Et puis, pour un dénatalisme libertaire, ne pas vouloir d'enfants dans une perspective de lutte anticapitaliste, par Nicolas Lamblé. C'est un livre qui était sorti en septembre 2024. Et nous avions invité Nicolas Lamblé nous parler de cet ouvrage. Et pour revenir à Pierre Sommermeyer, mais là c'était il y a presque un an, il avait sorti Israël-Palestine 2003-2024, chronique libertaire, une guerre qui n'en finit pas. On va peut-être écouter Zaz.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Ben c'était Zaz, et dans la librairie publique au 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, Figue du Calvaire. Librairie ouverte tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h30, donc du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h, il y a des animations. Du 2 mars au 30 mars, donc c'est vraiment, on est dans les derniers jours, l'exposition Histoire de grévistes d'Amande Art, dans le cadre du Mars féministe. Le mercredi 26 mars, c'était ce soir, c'était une rencontre débat à 19h avec Jean Mélier, curé athée et anarchiste pour le 21e siècle, de Philippe Diaz. Ça, c'est très particulier, mais voilà, c'était ce soir. Et du 3 au 30 avril, il y aura l'exposition « Le temps du féminin » de Mademoiselle Martine. Mademoiselle Martine que nous avions invitée au moment où elle avait sorti son album. Et le vernissage est le jeudi 3 avril à 19h. Le vendredi 4 avril, il y aura un concert à 19h avec Stéphane Perry, qui est guitariste, chanteur, et qui présente son album en création. Et le 5 avril, Elios Possos, auteur de Les Mains Vides, est accueilli à la librairie Publico à 14h pour un atelier d'écriture et à 16h autour de son livre. Le 6 avril, eh bien, ça sera à 16h un dimanche, Ciné Segui, Federica Monsnet, La femme qui parle, une projection débat. Pour la semaine prochaine, le mercredi 2 avril, de Ève à Philomène, sans oublier les autres, je ne sais pas quel portrait ce sera. Peut-être que Sylvie...
Anne Sylvestre.
Comment ?
Anne Sylvestre.
Ça sera Anne Sylvestre, voilà. Et Jules Falquet ensuite, la combinatoire Strigle, colonialisme, violence sexuelle et bâtard 2 du Capital aux éditions Amsterdam. On vous souhaite une bonne soirée et féministe tant qu'il le faudra. On termine avec Estelle, l'hymne des femmes. Bonsoir.
Nec femininae quater victende, 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 nec qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage, et détruisons nos cages, debout, debout.